Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Aujourd'hui, nous allons découvrir une statue. Alors, une statue bien particulière. Je pense que vous avez dû en entendre parler un jour. C'est peut-être la statue dont on nous raconte l'histoire de façon la plus lointaine à la fois, et puis la plus récurrente aussi, parce que l'histoire se répète, on le sait, on en parlait la semaine dernière. Et là, j'espère que vous allez comprendre où je souhaite vous mener. Cette statue, c'est celle de Gilgamesh, et c'est précisément le titre de cet album paru chez Delcourt Mirage, La statue de Gilgamesh, avec au scénario un certain Blaise Guinin et au dessin Louis Pélos. À vrai dire, je ne connais pas du tout ce dessinateur que nous découvrons. Le scénariste, lui, nous avait proposé un livre autour de Georges Brassens, assez poétique. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, Thierry.
Oui, c'était
Georges et la mort.
Un beau livre qui donnait à voir des dessins de très belles factures, notamment les couleurs, et qui sont portés à un niveau très supérieur dans ce livre. Alors qu'il mettait en scène un poète, hein, Georges Brassens, et là aussi, la statue de Gilgamesh met en scène un poète, un conteur, en fait. On est 2000 ans avant Jésus-Christ, et c'est le moment où on a inventé le procédé de l'écriture, la première écriture cunéiforme, et ce poète arrive dans la cité d'Uruk avec l'idée de raconter une fiction et de l'écrire, de la consigner en se servant de ce procédé qui jusqu'ici était utilisé pour des raisons comptables. C'est un poète, un personnage un peu fou, un peu rêveur, et il arrive dans un moment bien précis de l'histoire d'Uruk, c'est au moment où on est en train d'édifier une statue gigantesque, une statue de Gilgamesh, le roi, suite à l'épopée de Gilgamesh. Alors je dis l'épopée de Gilgamesh parce que j'ai découvert ce personnage par la musique, par un oratorio de Bohuslav Martinu qui racontait les histoires de Gilgamesh avec Enkidu, les deux défiant les dieux ayant puni ces deux personnages en tuant Enkidu, Gilgamesh cherchant l'immortalité. La prêtresse Ménanache lui dit « Le seul moyen d'acquérir l'immortalité, c'est de construire, d'édifier une statue si gigantesque qu'elle atteindra les cieux, et tant que cette statue sera en cours d'achèvement, tu seras immortel. » Donc c'est exactement le culte de la personnalité, le dérèglement climatique aussi, parce que pour édifier cette statue, il se voit obligé d'opérer une déforestation comme Staline l'avait fait dans les années 30. Ouais, cette histoire qui se passe il y a 2000 ans parle de choses d'aujourd'hui.
Alors cette histoire, effectivement, c'est la plus ancienne des histoires écrites, vous le disiez Thierry. Si elle est écrite, alors c'est évidemment pas avec un papier et un stylo, hein. C'était sur des tablettes d'argile en cunéiforme, donc vous voyez à quoi ça nous ramène. C'est le premier récit mésopotamien où est intégré le déluge, parce que quand vous parlez de dérèglement climatique, eh bien c'est ce qui se passe, puisqu'on enlève tous les arbres, la pluie n'est pas stoppée, et elle va en fait envahir la ville d'Uruk. Et puis, pour mémoire, ce récit du déluge, on le trouve aussi dans un vieux livre qui s'appelle la Bible.
Oui, c'est confondant, cette conjonction des sources comme ça. Cette bande dessinée, elle m'a passionné parce qu'elle parle de choses tout à fait intemporelles. La mégalomanie, l'ivresse du pouvoir. Qu'est-ce que serait une démocratie si les soulèvements... Il y a un petit côté Spartacus dans le déroulement, puisque le poète, pour subsister, va se faire esclave pour la construction de la statue.
Oui, parce que son idée n'a pas du tout de succès.
Non, ça fait un flop. Et il va faire la connaissance d'une jeune rebelle. Une chose qu'il faut préciser, c'est qu'on a laissé entendre que c'était un ouvrage très documenté, très sérieux et très, très profond. Mais c'est surtout un ouvrage très drôle, parce que les dialogues entre les différents personnages sont écrits un peu façon Kaamelott, la série parodique. C'est-à-dire que c'est à la fois très actuel, très drôle et très vivant. Ajouté à ce dessin qui, moi, me fait presque penser aux illustrations des poteries étrusques ou même à l'iconographie des Égyptiens. Ces couleurs, qui sont une alternance entre la végétation très verte et puis des ocres, des paysages désertiques ou des paysages de sable, c'est très poétique, c'est très drôle et c'est très symbolique. C'est un ouvrage étonnant.
Oui, il y a une dimension très universelle dans cet ouvrage, en effet. Un ouvrage qui, à la fois, nous parle du passé et du présent, vous l'avez compris. Vous avez évoqué cette dimension de drôlerie qu'il y a dans toute cette histoire. En même temps, il y a une grande gravité, bien sûr, hein, parce que, ben voilà, on voit une civilisation qui s'effondre à cause de la mégalomanie d'un personnage. Ce jeune poète, il est confronté d'ailleurs à d'autres personnes, dont une jeune révolutionnaire, dont il tombe amoureux. ça ne va pas être une grande réussite.
Non, c'est vrai que le dernier tiers de l'ouvrage, c'est là où il bascule dans la tragédie. Avant, c'est presque une comédie. Brutalement, tout le monde se trouve confronté à l'urgence de la catastrophe climatique, l'urgence à prendre des décisions, à être fidèle à ses idéaux ou à les trahir, fidèle à son projet de vie, fidèle à beaucoup de choses ou infidèle. C'est là que ça prend une dimension vraiment épique. Tout ça se glisse très naturellement d'un genre de récit à l'autre. C'est un tour de force, je trouve, de rester cohérent en ayant des éclairages aussi différents.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'entendre parler et de lire un certain nombre de passages de cette épopée de Gilgamesh par le passé. Il y a eu, au moins à ma connaissance, trois autres adaptations du récit. Des adaptations parfois très savantes. C'est la première fois que j'ai le sentiment de pouvoir accéder au récit de façon relativement simple et pas simpliste, hein, je le précise. Et puis, oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry, de faire le lien avec ce que nous vivons, parce que c'est un récit qui remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, et pourtant, 2000 ans après, on est toujours dans les mêmes modes de fonctionnement.
Oui, l'histoire bégaye. C'est un constat assez amer qu'on peut faire. L'homme n'a pas compris, sauf qu'aujourd'hui, il a vraiment le moyen de détruire l'humanité tout entière. À l'époque, ça restait encore limité, mais les mêmes mécanismes sont en marche.
Comme quoi, on peut reprendre ces vieux textes, Gilgamesh, le récit biblique et d'autres encore, et se dire, ben voilà, ça a quelque chose à nous dire par rapport à nous-mêmes. Ce qui a quelque chose à dire, vous évoquiez le dessin tout à l'heure, Thierry, mais il n'y a pas que le dessin, il y a aussi les couleurs qui
sont
parlantes.
Oui, les couleurs, je parlais des couleurs. C'est une vieille lubie que je remets régulièrement. Les couleurs, je pense qu'elles ont une importance quand elles servent la narration. Les couleurs narratives qui font que l'œil est accroché ou perdu ou dirigé vers un point bien précis. C'est une parfaite maîtrise des couleurs qui sont à la fois très apaisantes, très justes et qui donnent de la profondeur au dessin, au paysage. Les couleurs sont totalement vivantes. Si on était méchant et injuste, on dirait que peut-être le dessin serait parfois un peu lâché, voire jeté, mais avec ses couleurs, il prend une dimension d'épopée naïve et très évocatrice.
Voilà, si vous souhaitez mesurer l'ampleur de l'orgueil humain, de la mégalomanie que l'on développe à différents degrés, hein, parce que loin l'idée de dénoncer seulement ceux qui sont les maîtres du monde, je pense qu'on est tous à différents degrés confrontés au phénomène. Une part de cela, et puis on peut facilement retourner notre veste aussi, c'est ce qu'on découvre dans l'histoire. Ça a tendance à briser les cœurs, si vous arrivez à suivre ma pensée. Et puis, on en prend pour son grade, en fait. Est-ce que ça nous renvoie, Thierry, au fait qu'au bout du compte, l'écrit qui est moqué en début de récit n'est pas, au final, la seule chose qui reste, au-delà de ces personnages comme Gilgamesh ou comme je sais...
Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste au fil des siècles? Est-ce que l'écriture, le livre, le récit, l'épopée, la poésie, est-ce que c'est pas ce qui restera au bout du bout de l'aventure humaine? Il y aura encore un poème qui sera inséré dans la mémoire, dans le disque dur d'un satellite, d'une sonde envoyée au fin fond de l'espace, qui témoignera de l'activité humaine un jour.
Ou d'un disque de saphir déposé sur la Lune, puisque j'ai entendu dire encore cette semaine que c'était un projet en cours de réalisation par une entreprise proche de notre région. Oui, on peut se poser toutes ces questions-là au travers de la statue de Gilgamesh, une parution Delcourt Mirage, avec Blaise Guinin et Louis Pelos qui se partagent le travail. Blaise Guinin au scénario et Louis Pelos au dessin. Une lecture que nous avons appréciée, qui fait réfléchir tout en étant relativement simple d'accès. Merci Thierry de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouvons pour d'autres lectures, bien sûr, dans cette chronique la semaine prochaine. À bientôt.